L'EM, l'émission, l'émission, sur Transistor, creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission quotidienne de Radio Évasion qui change de nom, qui devient Transistor, car nous sommes une radio en transition. Le C'H à la fin, c'est pour le côté finistérien, mais l'EM reste le même, en direct à midi, en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, de l'eau, une ressource précieuse dont la qualité a fait l'objet de plusieurs manifestations ces derniers jours dans le Finistère. Il y a eu une soirée débat avec une BD et un concert autour des algues vertes avec la Maison de l'Agriculture Bio. Il y a eu une marche dans la vallée du Costour au relais Kerion avec l'association Costour Poumons Verts. Et puis il y a eu la fameuse publication de l'état des plages par Eau et Rivières de Bretagne, une association partenaire de longue date de la radio que nous retrouvons avec plaisir aujourd'hui. Vous l'avez forcément vu dans les médias, cette campagne « La belle plage ». Le mot « belle » peut être ironique, c'est un peu le cas quand le sable est blanc, le ciel bleu, l'eau transparente mais polluée, et le public ignore encore largement de quoi il retourne. Christophe Levisage est bénévole de Eau et Rivières de Bretagne, c'est lui qui est chargé de ce dossier, il vient nous informer. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on avait fait déjà une émission avec l'association il y a quelques années à propos de ces eaux de baignade qui sont certes contrôlées, mais pas forcément jusqu'au bout. Là, la nouveauté, on va dire, c'est qu'en 2023, Eau et Rivières a obtenu la condamnation par le tribunal administratif de l'Agence régionale de santé de Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement pourquoi ?
Oui, tout d'abord, Eau et Rivières de Bretagne s'intéresse à la mer comme elle s'intéresse à l'eau, de la source jusqu'à la mer. Donc, il était assez naturel qu'on s'intéresse effectivement aux zones côtières où tout ça finit, finalement. Et donc, depuis quelques années, Eau et Rivières de Bretagne travaille sur la question de la qualité des eaux de baignade, puisque c'est un des rares domaines, un des rares endroits où la qualité de l'eau littorale est effectivement mesurée. On a en fait les zones conchylicoles et les zones de baignade. L'avantage, c'est que ça fait beaucoup de points de mesure, donc qui nous permettent d'avoir des informations intéressantes. L'inconvénient, c'est que ces informations sont assez mal connues, d'une part, et d'autre part, pas forcément accessibles. Alors, on a commencé à s'y intéresser précisément en regardant le thermomètre. Hein, le thermomètre de la qualité des eaux de baignade, c'est le classement européen qui est publié tous les ans, qui est calculé, en fait, déterminé par les agences régionales de santé qui assurent la surveillance des plages. Alors, 566 plages quand même en Bretagne, hein, donc le tiers des plages françaises littorales, c'est beaucoup. Cette surveillance est assurée toutes les semaines ou toutes les deux semaines. En gros, on prend un prélèvement, on analyse les bactéries et puis à partir de ces analyses, on sort à la fin de la saison de baignade, qui est en principe en Bretagne de 3 mois, mais dans la pratique beaucoup plus, n'est-ce pas? Puisque l'eau est à la même température toute l'année, voyant le côté positif des choses. Donc ce classement nous paraissait un petit peu bizarre, puisqu'il y avait des plages sur lesquelles la qualité s'améliorait, enfin le classement, pardon. Le classement s'améliorait d'année en année, alors que sur le terrain, il y avait de plus en plus de fermetures et tout autant de pollution. Donc ça a été notre premier point d'entrée. Je n'aurais pas y passer trop de temps, mais effectivement, ça nous a amené un petit contentieux avec l'Agence régionale de santé qui nous a permis de corriger le thermomètre. Mais même avec ce thermomètre corrigé, il restait quand même des incohérences puisque nous avions des plages classées bon ou excellent, donc a priori pas de raison de se méfier, et sur lesquelles il y avait régulièrement des pollutions, alors régulièrement, chaque fois qu'il pleuvait. Et souvent d'ailleurs, même en dehors des pluies, des pollutions, alors pas forcément majeures, mais clairement passées au-dessus du seuil de sécurité sanitaire tel qu'il est défini par les autorités qui vont bien. Donc voilà, ça a été notre point de départ et effectivement on a laissé derrière nous ce contentieux avec l'ARS et nous avons travaillé sur les données qui avaient été recueillies par les ARS, l'ARS Bretagne notamment, toute l'année. Ces données sont rapportées tous les ans réglementairement à la Commission européenne et du coup, ça fait un jeu de données considérable. Plusieurs dizaines de milliers, parfois peut-être même pas loin d'une centaine de milliers de données sont recueillies tous les ans et elles sont finalement utilisées assez peu puisqu'il existe ce classement. Il existe en fait un seul classement et il est peu accessible. Mmh. Allez donc sur les plages, demandez aux baigneurs si la qualité de la plage sur laquelle ils se baignent est bonne, excellente ou suffisante. Et finalement, la plupart des gens sont incapables de répondre. Donc notre but, c'était, alors pas forcément de montrer les mauvaises plages, hein, mais c'était de donner d'abord de la visibilité sur la qualité de ces plages. Deuxièmement, de montrer les excellentes plages, puisque c'est quand même ça qu'on cherchait à faire. Et puis, en filigrane, ou plutôt, on a fait apparaître des mauvaises plages, les plages qui sont régulièrement polluées, et c'est celles qui sont sans doute un peu trop visibles ou un peu plus visibles sur nos cartes, mais tant pis.
Mais quand on parle de pollution, une plage peut être polluée de de bien des manières, à dire vrai, en fait. Là, on parle donc de pollution de bactériologique, c'est ça, hein ?
C'est ça, oui. Alors, il y a plusieurs... Tout arrive à la mer, donc effectivement, de la mer aussi, parfois, d'ailleurs, les pollutions, les marées noires, mais aussi de la terre arrivent du plastique, des pesticides, des résidus médicamenteux, hein, un peu toutes les pollutions que nous mettons un jour ou un autre là, et puis des bactéries. Et la surveillance dont je parle, c'est effectivement... Alors, même si c'est la seule surveillance qui existe, elle est quand même un petit peu parcellaire, parce que d'abord, on ne surveille que l'été, et d'autre part, on ne surveille que les bactéries. Alors, les deux types de bactéries, concrètement, sans rentrer dans le détail, c'est bactéries indicatrices, hein. Elles ne sont pas forcément pathogènes en elles-mêmes, mais quand elles sont là, généralement, elles sont accompagnées d'un certain nombre de leurs petites camarades, ou de virus d'ailleurs, qui ne sont pas forcément très bons pour la santé, hein, avec les maladies en gastro-entérite, en otite, tout ce qui se termine en ite, généralement, peut être associé à tout ça. Donc, il y a un risque sanitaire, et le problème, c'est que l'eau peut être très claire, mais les bactéries peuvent être là.
Et elles viennent d'où, on le sait, ces bactéries, essentiellement, d'où elles viennent ?
Alors, on sait, parce que celles qu'on cherche, c'est des bactéries d'origine fécale, essentiellement. Donc, concrètement, c'est les animaux ou les humains. Alors, les animaux sauvages, animaux d'élevage ou humains, évidemment. On a tendance, forcément, en tout cas, à ne regarder que les humains, parce que généralement, ça se passe sur les plages. Alors, il y a un biais déjà. Hein. On nous dit, mais c'est forcément les humains, puisque les pollutions ont lieu l'été quand les touristes sont là. Non. C'est l'été qu'on surveille. Donc, on ne pourra pas trouver de pollution. D'autre part, effectivement, si on regarde juste la plage, ce qu'il y a de plus proche, généralement, c'est des humains. Mais si on remonte dans les bassins versants, et c'est souvent de là qu'arrivent les pollutions, elles arrivent par les ruisseaux, les cours d'eau, les eaux pluviales, etc. Et elles peuvent lessiver des bassins versants beaucoup plus grands. Donc, il faut avoir une vision un peu plus large de tout ça. Et dans la moitié des cas, en gros, c'est d'origine humaine parce qu'il y a beaucoup d'humains. Dans l'autre cas, beaucoup moins visible, c'est l'origine animale parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Et ce n'est pas forcément les animaux sauvages ou les animaux domestiques qui se promènent sur les plages, comme les chiens. Ça peut être des animaux d'élevage qui sont en arrière-pays. C'est un peu ce que met en évidence notre enquête pour la Bretagne. Alors, on a quand même publié la carte pour toute la France. Et ça peut interroger, hein, aux rivières de Bretagne, sa légitimité et son assise géographique.
Oui, c'est vrai, on se pose la question.
Voilà, mais l'explication est tout simple. On a trouvé de mauvaises plages en Bretagne et on ne voulait surtout pas désigner la Bretagne comme l'endroit où se trouvent les plages les plus sales de France, n'est-ce pas ? Donc, il nous fallait pour ça une référence plus large. Et donc, comme nous avions les données, ben, nous avons calculé nos notes, nos classements, on en reparlera, sur toutes les plages de France. Et ça nous a permis de mettre en évidence le fait que, ben, d'abord, les meilleures plages bretonnes, étaient parmi les meilleures plages de France. Premier point important, je l'insère.
Oui, on souligne.
Les plus mauvaises plages bretonnes étaient aussi parmi les plus mauvaises plages de France. Et bien du coup, on s'est dit que cette information qu'on avait pour la Bretagne, il serait dommage de ne pas la partager et puis de ne pas propager nos interrogations dans d'autres régions. Après tout, il n'y a pas de raison que ce soit seulement la Bretagne qui se préoccupe de la propreté de ses plages.
Donc pour revenir sur les données, ce sont des données publiques que vous avez exploitées à fond ou est-ce qu'il y a des données que vous avez collectées vous-même ?
Non, ce sont uniquement des données publiques. Alors, je dis publiques entre guillemets parce que c'est des données que l'ARS a du mal à nous donner.
Oui.
C'était un de nos soucis et un de nos conflits. Bon, heureusement, elles sont disponibles par le rapportage que fait la France réglementairement à la Commission européenne. Donc, ces informations sont... Ce sont uniquement ces informations de surveillance. On n'a rien recueilli nous-mêmes, on n'a pas fait intervenir d'autres. On a juste traité de manière différente les données qui étaient traitées par la formule donnée par la directive européenne qui permet d'obtenir le classement européen. Et nous, on a fixé le projecteur, en fait, non pas sur les plus mauvaises plages qui disparaîtraient, ce qui permet d'améliorer le classement. C'est un petit peu ce que fait le classement européen. Il est très sensible aux grosses pollutions. Lorsqu'il y a une pollution majeure, eh bien, elle fait bouger tout de suite le classement, ce qui est peut-être une des raisons pour lesquelles nous avons... porter le conflit, enfin un contentieux avec l'ARS qui avait une fâcheuse tendance pour nous à faire disparaître un peu facilement ces plages des statistiques. Mais on a dirigé le projecteur du côté des plages de bonne qualité, parce que c'était notre objectif principal. On a regardé donc concrètement les prélèvements qui étaient bons ou très bons.
Mmh. Oui,
ça paraissait logique.
Finalement, c'est une grosse majorité de plages qui sont bons ou très bonnes. Hein. Enfin, voilà, c'est...
Tout à fait. C'est quand même le message principal, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes plages en Bretagne. Donc, choisissez celle-là. Le message en filigrane, c'est ne choisissez peut-être pas les autres. Alors, donc, nous, on a simplement regardé chacun des prélèvements et regardé s'il était au-dessus ou au-dessous du seuil sanitaire. Alors, c'est ce seuil, pour ceux qui sont sur les plages, c'est assez simple. Chaque prélèvement dont les résultats sont affichés sur la plage est caractérisé par une couleur. S'il est bleu, s'il est bon. Vert, s'il est moyen. Et rouge, s'il est rose, s'il est mauvais. Alors déjà, vous voyez qu'il y a un petit biais dans les couleurs.
Oui, en effet. Oui,
on s'attendrait à vert, jaune, rouge.
Voilà.
N'est-ce pas ? Eh bien, on a bleu, vert et rose. Et c'est un petit peu le message que passe le classement européen. C'est en gros, tant que ce n'est pas mauvais, c'est bon. Ben non, oui. Tant que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon.
Mais oui, c'est ça. Ouais. Et quand une plage est en mauvais état sanitaire, c'est dû à quoi en général ? Est-ce qu'il y a des facteurs ? Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est le relief alentour, les activités alentour ? Comment ça ? Est-ce que vous avez réussi à identifier ça aux rivières de Bretagne ?
Bah, c'est assez connu, en fait, hein, parce que chacune des plages, on ne se contente pas de faire de la surveillance, chacune des plages, sous la responsabilité des communes et sur les prescriptions de la directive européenne, il y a un profil de baignade qui est rédigé. C'est un document technique de 60 ou 100 pages qui examine toutes les possibilités ou tous les risques de pollution et puis qui fait à la fin un certain nombre de recommandations. Donc là, pour chaque plage, en fait, on a une bonne idée des causes possibles. Alors, là où les avis peuvent diverger, c'est sur la hiérarchie. On a une liste à la fin dans laquelle vous retrouvez, c'est parfois une liste à la Prévert, dans laquelle vous trouvez effectivement les chiens sur les plages, les chevaux qui se promènent, les goélands, les camping-cars, les fuites des assainissements, les épandages agricoles. Mais tout ça est dans une liste dans laquelle on ne fait pas forcément un classement, une hiérarchie. Donc on sait d'où ça vient en gros, mais on ne sait pas quel est le facteur dominant sur chacune des plages polluées.
Mmh. Oui, ça vous...
On a une bonne idée, ouais.
Vous parfois, n'auriez pas forcément idée. Les moyens de le savoir, ça, en fait.
Enfin... On a les moyens de le savoir, mais encore faut-il mettre l'argent au bon endroit. Donc souvent, effectivement, la tentation est grande de se dire « ça vient de l'assainissement ». Alors c'est paradoxal quand même, l'assainissement est destiné à éviter les pollutions, et ce serait lui qui polluerait, mais ça gêne personne. Et puis ça peut être aussi les assainissements non collectifs, alors tout le monde connaît effectivement le tout à l'égout, c'est la plupart de nos logements, surtout sur la côte, sont connectés au réseau de collecte et puis à une station d'épuration, mais il y en a encore pas mal qui ne sont pas connectés, qui ont des systèmes qui en principe marchent très bien. Mais
la fameuse fosse sceptique, c'est ça en fait, en gros.
Fosse sceptique, là qu'on appelle désormais assainissement non collectif, ANC. Et puis, qui sont effectivement, lorsqu'ils sont mal branchés, par exemple branchés directement sur le caniveau, une source de pollution incontestable. Alors, il y en a de moins en moins, et pourtant, c'est ceux qu'on met de plus en plus souvent en avant dans les causes de pollution. Ça nous interrogeait quand même. Hein.
Et justement, est-ce que vous avez vu, parce que ça fait quand même un moment que vous faites ce classement des plages, est-ce que vous avez vu des évolutions, en bien ou en mal d'ailleurs hein ?
Alors, on a vu beaucoup d'efforts sur l'assainissement, ça c'est clair. Hein. Évidemment, quand on s'est posé la question de savoir pourquoi des pollutions se maintenaient, on a été regarder si les communes en particulier avaient fait des efforts. Elles ont souvent fait de gros efforts. Alors, je dis que les communes, ce sont les abonnés hein, qui payent. Ce n'est pas les impôts, hein, c'est les notes d'eau et d'assainissement. Mais il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Des stations d'épuration ont été mises aux normes. Des réseaux qui étaient vieillots ont été rendus plus étanches. Des assainissements non collectifs ont été corrigés. Et pourtant, on n'a pas vu d'amélioration notable. Ça, c'est quand même à noter, si j'ose dire. Donc c'est bien ce qui nous a attirés, on ne va pas au secours de la victoire et ça ne sert à rien pour nous d'identifier des bonnes pratiques, mais plutôt d'identifier les mauvaises pratiques, c'est un petit peu notre biais. Et donc on a effectivement identifié en gros deux types de pollution qu'on retrouve sur les cartes de Bretagne, si vous les regardez bien, des pollutions d'origine urbaine. Il y a clairement, je ne veux pas désigner des grandes agglomérations du nord de l'Ille-et-Vilaine sur lesquelles il y a effectivement des problèmes, qui sont des problèmes connus d'assainissement. Hein, il n'y a pas de faute, si j'ose dire, hein, lorsqu'on est une cité touristique depuis 100 ou 150 ans et que les premières maisons ont été construites avant que l'assainissement soit mis en place. Rattraper ce retard, c'est difficile. C'est beaucoup plus facile sur ceux qui sont arrivés plus tard. Une plage urbaine, c'est une plage qui est difficile à surveiller parce qu'il y a beaucoup de monde. Mm-hmm. Naturellement, ça pollue.
Oui.
Et puis, il y a d'autres endroits où on se serait attendu à trouver beaucoup plus de pollution. Par exemple, clairement, la Bretagne Sud, puisque la Bretagne Sud est quand même l'endroit où, pour des raisons discutables, puisque l'on n'y est pas beaucoup plus chaude, pardon. Je parle du point de vue de Nord Finistérien ici, maintenant. Mais on se serait attendu à ce qu'il y ait beaucoup de touristes, donc beaucoup de pollution. Il y en a, mais pas énormément. Et le dernier point, sur lequel j'insisterai pas trop, mais que je tiens à citer, les plages que nous avons vues les plus polluées sont des plages de Bretagne Nord, sur lesquelles il y a peu finalement peu d'urbanisation, dans lesquelles les systèmes d'épuration de stations d'épuration et les systèmes d'assainissement ont été souvent mis au niveau, et ces pollutions persistent. Ce sont des zones qui correspondent à des zones d'algues vertes, des zones d'élevage intensif et des zones d'épandage, ce qui nous a amené à remonter un petit peu le cours des ruisseaux, si j'ose dire.
Oui, parce que ça passe par les ruisseaux essentiellement, ce n'est pas des pollutions qui passent par les eaux souterraines.
Les eaux pluviales. Oui. En fait, les principales sources, c'est effectivement des petits cours d'eau qui peuvent être juste les eaux pluviales. Lorsque le lessivage des surfaces artificialisées dans les villes, bah forcément, un jour ou un autre, ça revient à la mer. Et donc, s'il y a des pollutions, ça peut être des résidus d'hydrocarbures, par exemple, hein, ou bien des crottes de chiens. Tout bêtement, tout ça arrive à la mer. C'est une des premières sources de pollution. C'est la plus proche, mais ce n'est pas forcément la plus importante. Lorsque la plage est située auprès de l'exutoire d'un petit cours d'eau, et c'est généralement le cas. C'est là qu'est le sable. Le sable, il vient de la terre. Et le sable le plus fin, c'est celui qui a été apporté par les rivières au cours des millénaires. Et les petites plages, les plus souvent polluées, celles dont nous parlons, eh bien, c'est souvent des petites plages à l'exutoire d'un cours d'eau. Et finalement, ce cours d'eau, ben, allons voir ce qui se passe sur son bassin versant. Et c'est là qu'on a découvert le poteau rose, si j'ose dire, pour un certain nombre de plages.
Oui, ce n'était pas vraiment un mystère, en fait. Hein. Ce sont les pratiques agricoles, quoi. C'est ça, on peut le
Oui.
dire.
Oui, c'est un mystère. C'est pas un mystère, mais c'était quand même un non-dit.
Ouais, donc là, vous l'avez démontré un peu plus clairement, en fait. C'est ça aussi
Voilà.
l'intérêt de ce classement. À partir de là, donc oui, si, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans le mauvais sens, c'est-à-dire des plages qui étaient qui étaient de plus en plus dégradées par rapport au classement précédent
Alors, on n'en fait pas de classement depuis très longtemps. On n'a pas vu de dégradation. Bon, c'est quelque chose
C'est
qui
pas
se
ça.
regarde sur le long terme, quand même, enfin, sur plusieurs années, parce que bah, le fait qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, les variations saisonnières, etc., il faut quand même lisser un peu tout ça et ne pas tomber sur la dernière pollution en expliquant que les gens n'ont pas fait leur boulot. C'est sur le long terme que ça s'évolue, ça évolue, pardon, et on n'a pas vu forcément beaucoup d'évolution. Mais c'est un peu normal parce que, encore une fois, les principales évolutions qu'on aurait pu voir, c'est les effets des améliorations ou des dépenses, des investissements faits dans les assainissements, et si c'est pas ça la cause, il y a peu de choses à avoir des effets. Je reviens un tout petit peu quand même pour que nous ne soyons pas forcément accusés de taper sur l'agriculture, puisque c'est un peu quand même notre image de marque. Les petites plages sur lesquelles on a enquêté le plus, il y a 1 500 habitants qui sont pratiquement tous reliés à l'assainissement. L'assainissement fonctionne, il n'y a pas de fuite des stations d'épuration, il y a très peu d'assainissement non collectif. Et sur le bassin versant, il y a 15 000 cochons. Et ces cochons, enfin, c'est un porc, ça produit 30 fois plus de bactéries qu'un humain, un porc d'élevage. Donc vous multipliez, vous avez 450 000 habitants, équivalents habitants en termes de bactéries, qui sont pour l'essentiel épandues sur les terres agricoles, puisque ça sert d'engrais, effectivement. Mais les bactéries, lorsqu'il pleut, sont lessivées. Donc on a à la fois la preuve, j'allais dire, ou en tout cas la preuve en indirect, que l'assainissement n'est pas responsable, et de très fortes présomptions de la responsabilité de l'élevage. Donc on ne se lance pas au hasard, et encore une fois, responsabilité ne signifie pas culpabilité. Il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit d'identifier effectivement les causes et de voir si, bah, s'il est possible de faire quelque chose. Dans ce cas, faisons-le. Si ce n'est pas possible, eh bien, disons aux baigneurs, n'allez pas sur ces plages.
Alors justement, ce qui est possible de faire ou pas, d'ailleurs, qu'est-ce que demandent Eaux et Rivières de Bretagne, c'est-à-dire, enfin, de manière très très large, hein, vous demandez peut-être déjà une meilleure communication, enfin, et puis après en termes de mesures, quoi.
Alors, une meilleure information, c'est clair.
Information, oui.
Parce que la carte que nous sortons, c'est une carte évidente. J'allais dire, ça ne nous a pas demandé beaucoup de travail. Or, elle indique déjà vraiment beaucoup de choses. Hein. Par exemple, elle permet de sortir de la logique de ce problème est uniquement local et ponctuel. Lorsqu'on a un regroupement de 50 problèmes locaux et ponctuels, eh ben, ils ne sont plus locaux et ponctuels. Il y a peut-être une cause systémique qu'il faut analyser. Donc, le deuxième point, enfin, le premier plutôt, c'est l'information du public. Hein. Notre application, plus notre site, permet de cliquer sur chaque plage et de voir comment elle est, si elle est bonne ou pas. Et puis, si la plage à côté n'est pas meilleure. Donc, quelque part, un message fort. Troisième message, peut-être pour aller vers l'avenir, c'est ben, que les communes qui sont touchées par ces problèmes, qui sont, encore une fois, vous avez vu, la responsabilité n'est pas forcément du tout de la responsabilité communale. Même si la police des baignades s'est confiée au maire, c'est pas lui qui est responsable de ce qui se passe sur le bassin versant à 2, 3 km ou même 10 km. Donc, en revanche, la commune est responsable de faire des études. Et pour l'instant, à notre avis, les études ne sont pas assez fouillées parce qu'elles permettraient identifier les causes, hein. On peut définir les flux. Regardez, en gros, si ce qui arrive, c'est un tout petit pipi de chat, je passe mes mots, ou bien si c'est vraiment un gros flux de bactéries, et ça permet de cibler les efforts là où ils peuvent être les plus efficaces. Et donc, notre pétition, puisqu'on a fait une pétition, en fait, quand on regarde la carte de France, on s'aperçoit que ce problème, il n'est pas juste en Bretagne. Donc, il y a un vrai problème et qu'il nous paraîtrait intéressant que la représentation nationale, nos députés, nos sénateurs, qui sont prompts à saisir de sujets peut-être secondaires, s'intéressent à ce sujet qui concerne des millions de personnes et des, qui est facteur d'attraction touristique pour toute la France. C'est quand même, si des gens viennent en Bretagne, j'ai l'habitude de dire, c'est pas forcément pour les champs de maïs, c'est plutôt pour les plages et pour s'y baigner. Eh bien, c'est un enjeu environnemental, sanitaire et économique, et ça fait trois bonnes raisons de se pencher sur la question.
Et parmi les autres demandes, peut-être de plus long terme, est-ce que vous demandez par exemple davantage de mesures et puis, ou sur d'autres polluants aussi
Alors oui, l'urgence était, et c'est pour ça que la directive européenne prévoit la surveillance des bactériologies, l'urgence c'est quand même sur ce qui est susceptible de causer des maladies tout de suite. Les bactéries, si vous ingérez les bactéries, vous êtes malade dans les quelques heures.
Oui, puis c'est en lien avec d'autres activités économiques comme justement les coquillages, etc. quoi.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire sans compter effectivement le lien avec les coquillages, la pêche à pied, parce qu'autant les zones coquillages sont surveillées, mais les zones de pêche à pied ne le sont pas forcément, c'est souvent des zones de baignade. Alors donc, effectivement, excusez-moi, je perdais le fil de mon...
Je vous demandais si vous demandiez la mesure davantage de mesures et de mesures d'autres polluants.
Voilà, les mesures d'autres polluants, voilà. Alors donc, effectivement, il y a aussi des pollutions chimiques. Et ça, ces pollutions chimiques, alors là, elles ne sont pas, même si évidemment, là, on pourrait mettre en cause les pesticides et autres produits en usage agricole, phytosanitaires, il y a aussi les choses qui restent dans les eaux traitées urbaines. On ne traite pas les résidus médicamenteux, par exemple. C'est un problème, mais il y a des zones dans lesquelles, des zones littorales dans lesquelles la concentration de ces médicaments est très élevée. Ce n'est pas forcément très bon, les perturbateurs endocriniens, etc. Ce n'est pas bon pour la vie, c'est pas bon pour les baigneurs, mais ce n'est pas non plus bon pour la vie, la faune marine.
Voire des antibiotiques aussi, je suppose, non ?
Des antibiotiques, bien sûr, avec des risques pour l'antibiorésistance, par exemple. Lorsqu'on est soumis ou exposé à ces antibiotiques trop souvent, ben finalement, ils finissent par perdre leur efficacité. Et ça, c'est des choses qu'il faut essayer de cibler. Donc, tout ça, nous demanderions qu'effectivement, on sorte un petit peu de cette surveillance minimale qui est assurée depuis quand même presque 50 ans. Bon, je tiens à rappeler qu'on surveille les eaux de baignade avant même de commencer qu'existe la DCE, la fameuse directive cadre sur l'eau, on surveillait déjà les eaux de baignade parce que l'Union européenne avait identifié que c'était un problème. En 50 ans, on aurait pu faire mieux. Oui. En tout cas, pour nous, il faut changer peut-être le thermomètre, c'est en tout cas la proposition de notre indicateur. Et puis, il faut peut-être aussi passer à la vitesse supérieure, et ça ne passera pas uniquement par les efforts locaux, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience plus large. Et encore une fois, j'en reviens à la demande d'abord de nos députés de se pencher sur la question, et sans doute, effectivement, de renforcer la surveillance de ces eaux, qui est pour l'instant, j'allais dire, minimale, puisqu'il n'y a pas de surtransposition de la directive européenne. On fait exactement ce qui est prévu, mais pas plus.
Oui, on pourrait la surveiller toute l'année, c'est ça que vous voulez dire, quoi.
Voilà. La surveiller toute l'année parce qu'il y a des longues côtes, du surf, etc. Je commençais en disant que la température en Bretagne était la même en été et en hiver, avec les inconvénients, c'est qu'elle n'est pas très chaude en été, mais l'avantage, c'est qu'elle n'est pas très froide en hiver.
C'est vrai.
Donc, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent ces activités et dans l'inconnu le plus complet parce qu'on n'a aucun élément sur la surveillance des plages.
Et qu'est-ce qu'on peut... Alors, il y a une pétition peut-être à signer toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire
Toujours signer la pétition, effectivement. Ça, c'est les actions, j'allais dire, un peu symboliques, parce que ce n'est pas forcément le nombre de signataires qui va emporter la décision. On peut avoir des actions de proximité aussi, aller voir son maire, aller voir son conseiller municipal, lorsqu'on est sur une commune où les plages sont polluées. Alors, pas forcément pour le culpabiliser, j'insiste. Il n'est pas forcément responsable de tout ça, mais en tout cas, c'est lui qui est responsable de porter le message. Ça peut être aussi, qu'il organise lui-même, c'est sa compétence, la surveillance des plages en dehors des zones. Pour l'instant, ils font ce qui est obligatoire. J'allais dire que l'ARS leur refacture les analyses obligatoires. Mais rien ne les empêche, ou rien n'empêche les EPCI, donc les communautés de communes, d'en faire un peu plus. Et nous souhaiterions déjà que l'action commence à être locale, en dehors de cette préoccupation nationale.
Et vous avez peut-être d'autres soutiens du côté des acteurs du tourisme ou des acteurs de la mytiliculture, non ?
Alors, c'est un peu paradoxal, parce qu'on s'attendrait par exemple à ce que les conchyliculteurs soutiennent notre action. Il semble qu'il y ait, et comme ils n'hésitent pas d'ailleurs à monter au créneau, et c'était le cas récemment vis-à-vis des pollutions d'origine urbaine, c'est très bien. Après tout, il n'y a pas de raison que celui qui est en aval, son activité subisse les pollutions venant d'amont. En revanche, quand il s'agit d'évoquer des pollutions agricoles, on a l'impression que c'est beaucoup plus hésitant. Est-ce que c'est la volonté de ne pas s'attaquer à d'autres producteurs primaires ? Est-ce qu'il y a des raisons qui nous échappent ? Mais on a du mal à trouver des partenariats. Le tourisme, par exemple, pour l'instant, notre initiative ne plaît pas trop,
Ah
dans
oui.
la mesure où ça risque de décourager les gens de venir. Est-ce que c'est le thermomètre qui a ce
Oui, c'est ça, on accuse le thermomètre. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Levisage. Donc, je rappelle qu'on peut consulter le site internet labelleplage.fr pour tout savoir. Et puis, on pourra réécouter cette émission sur le site internet de Transistor qui s'appelle pour l'instant toujours radioévasion.net. Ah, au revoir, merci.
Merci, au revoir.